Bienvenue, vous êtes sur Pigouille Radio.
Bien le bonjour, chers auditeurs. Nous allons vous présenter un projet sur le malade imaginaire.
260 élèves y ont participé, ce qui représente les trois quarts du collège René Caillé de Mauzé-sur-le-Mignon.
La compagnie Vol Plané nous a présenté deux représentations incroyables le vendredi 7 février 2025.
Dans ce podcast, les cinquièmes vont vous présenter une interview fictive de Molière et de son entourage. Les quatrièmes vont vous lire des extraits de la pièce.
Et écoutez jusqu'au bout, car les troisièmes vous donneront leur avis sur la représentation.
Nous adressons un grand merci à Madame Valdec, professeure de français, à la compagnie Vol Plané, au Moulin du Roc et à Pigouille Radio qui ont tous rendu ce projet possible.
Bonne écoute.
Bonjour Monsieur Molière, c'est un honneur de vous rencontrer. Vous avez marqué le théâtre français. Pour commencer, pourriez-vous nous parler de vos débuts ?
Bonjour à tous, je suis ravi d'être ici. Alors pour vous dire, je suis né Jean-Baptiste Poquelin en 1622. Je viens d'une famille de tapissiers, mais j'ai toujours été fasciné par le théâtre. À l'âge de 21 ans, j'ai décidé de devenir comédien. J'ai même quitté la maison familiale, ce qui n'a pas plu à mon père. Madeleine Béjart, mon amie ici présente, était déjà à mes côtés.
Je me souviens en effet de ses débuts. Nous avons formé une troupe ensemble, l'Illustre Théâtre. C'était une période difficile, mais très excitante. Plus tard, ma sœur Armande a rejoint la troupe.
Oui, et j'ai tellement plu à Jean-Baptiste que nous nous sommes mariés, en 1662.
Vous avez mentionné votre troupe. Qu'est-ce qui vous a inspiré pour créer vos personnages ?
Une grande partie de mon inspiration vient de la Commedia dell'Arte, un théâtre italien qui mettait en scène des personnages stéréotypés comme le serviteur rusé ou le vieillard avare. J'ai voulu mélanger ça avec des éléments de la société française. Cela donne des personnages drôles mais aussi très humains. J'adore donner de l'importance à mes valets. Toinette, la servante du malade imaginaire, est extraordinaire.
Oh, c'est trop d'honneur, vous allez me faire rougir. Il est vrai que j'ai un certain don pour me jouer de mon maître, ce vieil hypochondriaque qui veut marier sa fille de force à un médecin. Molière, vous avez toujours réussi à faire rire tout en critiquant les défauts des gens.
Merci Toinette. Exactement, l'idée est de faire réfléchir les gens tout en les amusant. Je veux montrer la comédie de la vie.
Et en parlant de vie, votre relation avec le roi Louis XIV était cruciale pour votre carrière, non ? Monsieur Louis XIV, qu'avez-vous à dire à ce sujet ?
J'ai toujours soutenu Molière. Son talent est indéniable et ses pièces sont un miroir de notre société.
C'est vrai, votre soutien a été vital. Sans lui, mes pièces n'auraient peut-être jamais eu autant de succès. Quand j'ai joué pour la première fois devant la cour, c'était un moment décisif. Dans ma carrière, j'ai su m'entourer de personnes talentueuses. J'ai collaboré avec Lully, le célèbre compositeur. Mais au moment où j'ai créé Le Malade Imaginaire, j'ai préféré faire appel au compositeur Marc-Antoine Charpentier et au chorégraphe Pierre Beauchamp. Louis XIV adorait la musique ainsi que la danse. Il fallait donc incorporer cela dans mes pièces.
Mes musiques ont apporté une touche de magie à vos pièces. La musique et le théâtre se complètent si bien. Dans Le Malade Imaginaire, la pièce débute par un prologue musical et chaque acte est suivi d'un intermède chanté et dansé. On peut dire que Molière a créé l'ancêtre des comédies musicales avec ses comédies ballets.
Il faut dire que Louis XIV adorait danser. Moi, Pierre Beauchamp, j'étais son maître à danser. Et je peux vous en parler. Il aimait danser et voir les spectacles avec des danseurs. Molière l'a bien compris. La danse apporte une dimension visuelle qui enrichit le théâtre. Ainsi, les pièces de Molière sont des spectacles complets, où l'on rit, où l'on est ébloui et où l'on réfléchit.
Puisque nous abordons cette pièce, direz-vous que le malade imaginaire est une œuvre particulièrement personnelle ?
Oui, c'est vrai. J'y joue le rôle d'Argan, un hypochondriaque, c'est-à-dire un homme obsédé par sa santé. En réalité, j'ai moi-même des problèmes de santé, ce qui rend cette pièce encore plus poignante pour moi. J'y aborde les abus de la médecine et la façon dont certaines personnes profitent de la naïveté des autres.
Ça fait rire, mais c'est aussi touchant. À travers Argan, mon maître, dans la pièce, on voit la peur de la maladie, mais aussi la bêtise des médecins.
Exactement, Toinette. Dans la pièce, Argan veut marier sa fille Angélique à un médecin, pensant ainsi assurer son bien-être. Mais Angélique, elle, aime Cléante. Ça crée des situations cocasses où on se rend compte des défauts des personnages.
Cette idée de mariage arrangé est un thème récurrent dans vos œuvres, non ?
Oui, et je l'utilise pour montrer comment les gens essayent de contrôler la vie des autres. Dans l'école des femmes, par exemple, c'est le même principe. Un homme veut façonner une femme selon ses désirs. Ce n'est jamais très juste et j'aime me moquer de cela pour mieux le dénoncer. J'aurais bien voulu être un grand auteur de tragédie, mais il a fallu se rendre à l'évidence. J'étais bien plus doué pour faire rire. Alors j'ai laissé la tragédie à d'autres auteurs, comme Racine.
À l'époque, Molière était un véritable rival pour moi. J'ai finalement réussi à devenir moi aussi un grand auteur de théâtre, apprécié et reconnu par Louis XIV. Seulement, quand Molière fait rire, moi j'ai plutôt tendance à faire pleurer. avec mes tragédies comme Phèdre et Andromaque. J'ai connu un grand succès. J'ai moi aussi marqué mon époque. J'avoue que je suis un peu jaloux quand on dit que le français est la langue de Molière. J'aurais préféré que ce soit la langue de Molière et de Racine. Que voulez-vous ? Molière était extraordinairement doué.
Merci Racine. Chacun a son style. Mais je crois que l'humour est une clé pour aborder de sujets graves. Même dans le malade imaginaire, la comédie m'a permis de dire des vérités difficiles.
Vos personnages sont si vivants. Pourrions-nous entendre quelques mots de Scapin, ce personnage si astucieux ?
Oh là là, je suis un expert en ruse. J'aime tromper tous ceux qui se prennent trop au sérieux. Molière a ce don de donner vie à des personnages comme moi, qui se moquent des conventions. Je représente l'esprit libre, je suis celui qui défie l'autorité. Se joue aux règles, c'est moi le véritable héros de la comédie. Mes maîtres passent au second plan, car je les surpasse par ma fourberie. Je rétablis une certaine forme de justice et je permets de punir les hommes pour leurs défauts.
Ma conviction profonde est que l'humour rapproche les gens et permet de parler de sujets difficiles. Je crois fermement que le rire a un pouvoir incroyable.
En conclusion, si vous aviez un message à laisser aux jeunes d'aujourd'hui ?
N'oubliez pas le spectacle vivant et surtout, cultivez votre sens de l'humour. Vous pouvez utiliser mes pièces pour vous perfectionner. Surtout, riez. Ne vous prenez pas trop au sérieux et n'oubliez jamais que chacun a ses failles. Apprenez à les accepter et à en rire. Le théâtre est là pour nous aider à réfléchir sur nous-mêmes et sur la société.
Merci Monsieur Poquelin. Ce fut un véritable plaisir de discuter avec vous et tous vos amis ici présents. Votre héritage continue de vivre et nous sommes impatients de voir vos œuvres sur scène.
Bonjour à tous et bienvenue dans cette première interview consacrée aux malades imaginaires. Molière, pour commencer, pouvez-vous nous décrire la situation d'Argan dans ce premier acte ?
Bonjour à tous. Argan est un hypochondriaque. Il se préoccupe énormément de sa santé. Dans ce premier acte, il est très inquiet et obsédé par ses maladies. Il souhaite marier sa fille, Angélique, à un médecin, Thomas Diafoirus, pensant que cela lui garantira des soins appropriés.
Je suis Toinette, la servante d'Argan. J'essaye de lui faire comprendre qu'il ne devrait pas se soucier autant de sa santé. Mais c'est compliqué. Il est tellement persuadé d'être malade qu'il ne voit pas la réalité en face.
Moi, je ne veux pas épouser ce médecin. Je suis amoureuse de Cléante, un jeune homme que mon père n'approuve pas. C'est très difficile de faire entendre ma voix face à son autoritarisme.
Je suis Cléante, et je tiens à dire que l'amour ne devrait pas être une question réglée par un père seul. C'est ridicule que penser que marier sa fille à un médecin peut garantir la santé d'Argan.
C'est exactement ce que je cherche à mettre en lumière. À travers le personnage d'Argan, je veux montrer comment l'obsession pour la santé peut mener à des décisions absurdes.
Et je suis Monsieur Purgon, le médecin d'Argan. Je lui prescris des traitements qui devraient le guérir. Mais il est tellement absorbé par ses angoisses qu'il ne se rend pas compte que je fais qu'aggraver la situation.
Oui, Monsieur Purgon, vous êtes le parfait exemple de ces médecins qui prennent les malades pour des enfants. Vous ne les écoutez pas vraiment.
Mais c'est justement parce que je suis en bonne santé que je consulte ces médecins. J'ai besoin de leur expertise.
Cela soulève une question importante sur la médecine de l'époque. Molière, comment voyez-vous la relation entre Argan et les médecins ?
Elle est très révélatrice de la société de mon époque. Les médecins, comme M. Purgon, se considèrent comme des experts. Mais ils sont souvent déconnectés des véritables besoins des patients. À travers l'humour, j'essaie de faire réfléchir le public sur ces défauts des médecins de mon temps.
C'est frustrant de voir mon père se laisser manipuler par des gens comme lui. J'espère qu'il finira par réaliser qu'un père ne doit pas forcer sa fille à épouser quelqu'un qu'elle n'aime pas.
Oui, l'amour doit primer. Nous avons besoin d'un héros qui saura se battre pour ses sentiments, n'est-ce pas ?
Ah, mais la liberté d'aimer qui l'on veut, c'est un combat et ça se défend. Je ferai tout pour aider Angélique à être heureuse.
C'est exactement le message de cette pièce. La santé n'est pas tout. Et il est primordial de ne pas perdre de vue les vérités essentielles de la vie.
Pour conclure, que diriez-vous aux jeunes qui regardent cette pièce aujourd'hui ?
Je dirais qu'il est important de prendre soin de sa santé, mais aussi de cultiver l'amour et l'humour. La vie est trop courte pour ne pas rire et aimer.
Oui, n'oubliez pas de rire de vous-même et des autres. C'est la meilleure façon de vivre.
L'acte 2 du Malade imaginaire est rempli de rebondissements, de manipulations et de tensions. Nous avons donc beaucoup à découvrir. Commençons avec vous, Argan. Dites-nous, comment percevez-vous votre état de santé à ce stade de l'histoire ?
Eh bien, je suis sûre que mes mots sont réels. Chaque jour, je ressens de nouvelles douleurs, j'ai des vertiges et des insomnies. Et mes médecins m'assurent qu'il est nécessaire de suivre leur traitement. Je me fais du souci pour ma santé, c'est tout. Vous voyez, le moindre symptôme et c'est la catastrophe.
Et pourtant, Argan, tout le monde autour de vous semble douter de votre maladie. Toinette, par exemple. vous semblez avoir un avis bien différent sur l'état de santé de votre maître. Pourquoi ?
Oh, madame la journaliste, je suis l'infirmière d'Argan, mais je dois avouer que c'est un travail de patience. Tout le monde autour de lui dit qu'il n'est pas vraiment malade. Et moi, je dois faire semblant de le croire. Argan est tellement persuadé de sa maladie qu'il est incapable de voir la réalité en face.
Toinette, vous êtes donc un peu le personnage qui détient la vérité dans cette histoire. Comment réagissez-vous face à la situation avec Béline, la femme d'Argan, qui semble tellement préoccupée par son mari ?
Oh, madame la journaliste, vous savez bien que l'on ne peut pas tout comprendre de l'extérieur. Je me dévoue entièrement à mon mari. Chaque jour, je fais de mon mieux pour m'assurer qu'il prenne ses médicaments, qu'il se repose. C'est un homme si fragile, si sensible. Que pourrais-je vouloir d'autre que son bien-être ?
Oh, Béline, tu es une femme admirable. Tout ce que tu fais pour moi... Je ne peux que te remercier de tout cœur. Tu me rassures tellement.
Toinette, vous semblez moins convaincue que votre maître sur les intentions de Béline. Pourquoi ?
Vous savez, madame, j'ai l'habitude de voir à travers les apparences. Béline veut absolument un héritage. Et si pour cela, il faut jouer la comédie, elle le fera. Mais je ne vais pas la laisser faire. Je vais m'assurer qu'Argan ouvre enfin les yeux et qu'il se rende compte qu'il n'est pas malade et que certains autour de lui n'ont que leur intérêt personnel à cœur. Je ne peux pas permettre qu'il soit manipulé.
Bérald, vous êtes le frère d'Argan. Vous êtes l'un des rares à ne pas croire à sa maladie. Que pensez-vous de cette situation ?
Eh bien, c'est assez simple pour moi. Je vois clairement qu'Argan est en parfaite santé. Son problème, c'est qu'il a décidé d'être malade. Tous ces symptômes sont imaginaires. Chaque fois qu'un nouveau médecin lui fait des prescriptions, il se sent mieux. Mais il ne guérit pas, car il n'a rien à guérir. C'est de la pure folie, et il est entouré de personnes qui profitent de son état. J'essaie de lui faire comprendre cela, mais il est tellement obsédé par sa santé qu'il me rejette toujours.
Monsieur Purgon, vous êtes le médecin attitré d'Argan. Et pourtant, vous avez l'air assez convaincu que ces traitements sont essentiels. Qu'en pensez-vous ?
Évidemment. Argan est un sage homme qui suit les conseils d'un médecin expérimenté comme moi. Je lui ai prescrit des traitements rigoureux et il doit continuer à les suivre. Si quelqu'un peut savoir ce qu'il faut, c'est bien moi. Je suis un médecin de réputation et je vous assure que sans mes soins, il serait bien plus malade qu'il ne le croit. C'est moi et moi seul qui ai raison.
Vous êtes donc catégorique sur l'état de santé d'Argan ?
Absolument, et je n'accepte pas qu'on remette en question mes prescriptions. Si Argan ne suit pas mes conseils, il sera obligé de prendre des mesures sévères. D'ailleurs, je vais lui envoyer des remèdes encore plus puissants. Il n'a qu'ainsi qu'il comprendra l'importance de mes traitements.
Et donc, vous, Béline, vous soutenez fermement les prescriptions de Monsieur Purgon pour la santé de votre mari ?
Bien sûr ! Je lui fais entièrement confiance. Monsieur Purgon est un médecin reconnu et je crois tout ce qu'il prescrit et pour le bien de mon mari. Je ne doute jamais de ses conseils.
Cléante, vous êtes un personnage intéressant dans cette histoire. Vous êtes amoureux d'Angélique, la fille d'Argan. Comment trouvez-vous la situation dans cette maison ?
Eh bien, je suis amoureux d'Angélique. Mais malheureusement, son père ne veut rien entendre de mes intentions. Il pense que je ne suis qu'un simple prétendant. Mais je ferai tout pour la rendre heureuse. Il faut que je gagne sa confiance. Mais cela ne va pas être facile avec tout ce qui se passe autour de nous.
Je crois en lui. Il est sincère. Nous trouverons un moyen de contourner les obstacles que mon père nous impose. Ce n'est pas facile. Mais je l'aime, et cela finira par s'arranger.
L'acte 2 du malade imaginaire est une véritable comédie de quiproquo et de manipulation. Merci à tous pour vos réponses. Il est clair que cette histoire ne manque pas de rebondissements, et nous attendons avec impatience la suite des événements.
Argan, vous avez été un homme totalement absorbé par vos médecins et vos remèdes, mais vous commencez à voir les choses sous un autre jour. Dites-nous, comment évolue votre perception de votre maladie ?
Eh bien, il faut dire que tout devient un peu plus clair pour moi. J'ai enfin compris que certaines choses ne vont pas comme je le pensais. Toinette a joué un rôle crucial dans ce changement de perspective. Grâce à elle, je commence à douter de certains traitements et de l'honnêteté de certains médecins. C'est difficile à admettre, mais je commence à entrevoir la vérité. Je ne suis pas aussi malade que je le croyais.
Toinette, vous avez joué un rôle déterminant pour amener Argan à cette prise de conscience. Quels ont été vos objectifs et vos méthodes pour le faire réagir ainsi ?
Oh, vous savez, mon rôle n'a pas été facile. J'ai dû jouer de la ruse, des déguisements et des stratagèmes pour qu'Argan ouvre enfin les yeux. Vous n'imaginez pas la patience que cela a demandé. Il faut bien comprendre qu'Argan est une personne têtue, qui préfère se croire malade plutôt que d'accepter qu'il n'est pas aussi gravement malade qu'il le pense. J'ai donc dû user de mes talents pour lui prouver que les médecins ne sont pas toujours les meilleurs alliés.
Pouvez-vous nous parler du fameux déguisement que vous avez utilisé pour jouer le rôle du médecin ?
Ah, ce déguisement était une vraie réussite. J'ai dû me transformer en médecin, prétendant être un docteur de renom, et j'ai convaincu Argan que son traitement devait absolument être révisé. C'était une mise en scène bien orchestrée. En réalité, je n'ai rien fait d'autre que de lui faire comprendre qu'il avait été pris pour un imbécile. Il a bien fallu que quelqu'un lui ouvre les yeux.
Argan, après tout cela, croyez-vous que vos médecins vous ont trompé ? Et surtout, êtes-vous prêt à remettre en question tout ce qui vous a été enseigné sur votre état de santé ?
C'est difficile à dire. Ces médecins m'ont toujours semblé si sûr d'eux. Mais après tout ce que j'ai vécu, je me demande maintenant si j'ai été manipulée. Je pense que j'ai été un peu naïf.
Béline, vous êtes toujours aussi attentive envers Argan, mais certains d'entre nous ont du mal à comprendre vos intentions. Pensez-vous que votre dévouement envers lui est sincère, ou est-ce avant tout une question d'intérêt personnel ?
Oh mon cher, je suis profondément dévouée à mon mari. Je n'ai jamais rien fait que pour son bien. Vous savez, la santé d'un homme est précieuse, surtout pour une femme comme moi, qui se soucie tant de son bonheur.
Bérald, vous avez toujours été celui qui a tenté de faire comprendre à votre frère qu'il n'est pas réellement malade. Que ressentez-vous en voyant la situation évoluer ainsi, après tant de temps passé à lui ouvrir les yeux ?
Ah enfin ! Il était temps ! Vous n'imaginez pas combien de fois j'ai essayé de lui faire entendre raison. Argan a toujours été dans son petit monde, obsédé par sa santé, croyant chaque mot des médecins. Mais je suis content qu'il commence à voir les choses sous un autre angle. Il fallait qu'il prenne lui-même la décision de remettre en question ce qui l'entourait. C'est une grande victoire pour moi et pour lui aussi, j'en suis sûre.
Monsieur Purgon, que pensez-vous de ce qu'il se passe et comment réagissez-vous à l'éventuelle remise en question de vos traitements ?
C'est absolument scandaleux ! Je ne peux pas supporter que l'on mette en doute ma compétence. Argan a toujours été entre de bonnes mains. Si quelqu'un doit le soigner, c'est bien moi. Si vous voulez mon avis, c'est tout simplement une mauvaise influence qui a pris place autour de lui. On essaie de me faire passer pour un charlatan. Argan m'a toujours fait confiance. Je n'accepte pas qu'il puisse douter de mes conseils.
Cléante, vous avez essayé de courtiser Angélique, mais cela n'a pas été facile au sein de cette famille. Comment gérez-vous cette situation ?
D'un côté, j'ai Angélique, qui est parfaite à mes yeux, mais son père me rejette sans cesse. Et de l'autre, il y a toute cette histoire de faux médecins et de maladies imaginaires. C'est vraiment difficile de se concentrer sur ma relation avec Angélique quand tout autour de nous est un mélange de comédie et de manipulation. Mais je l'aime et je ferai tout pour la rendre heureuse, même si cela signifie me confronter à son père ou à des stratagèmes un peu plus osés.
Je suis avec toi, Cléante. Même si mon père est difficile, nous finirons par trouver un moyen de le convaincre. L'amour que nous partageons est plus fort que tout cela. Nous devons juste être un peu patients.
Alors, Angélique, quel est votre sentiment face à cette situation qui semble se compliquer de jour en jour ?
Ah, c'est difficile, mais je crois en nous. Je sais que mon père est têtu et qu'il a une vision très étroite de ce qui se passe. Mais je vais l'aider à voir la vérité. Cléante et moi allons nous battre pour notre amour. Et peu importe les obstacles, l'amour triomphera, j'en suis certaine.
Argan, vous avez pris une grande décision qui va vous changer la vie. Pouvez-vous nous en parler ?
Je vais moi-même devenir médecin. Je n'ai ainsi plus besoin de dépenser tout mon argent pour me soigner. Quant à ma fille, j'accepte qu'elle épouse Cléante.
Merci à tous pour vos réponses très sincères et passionnées. À bientôt.
Chers auditeurs, chères auditrices, nous arrivons à la deuxième partie de l'émission. Écoutez maintenant les élèves de 4e qui vont mettre en voix plusieurs morceaux choisis de la comédie de Molière, Le Malade Imaginaire. Tout d'abord, vous allez entendre la scène d'exposition. C'est le moment où l'intrigue se met en place. Nous découvrons le personnage d'Argan, bien occupé à compter l'argent qu'il a dépensé pour ses frais médicaux.
3 et 2 font 5 et 5 font 10 et 10 font 20. 63 livres, 4 sols, 6 deniers. Si bien donc que ce mois-ci j'ai pris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 médecines. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 lavements. Et l'autre mois il y avait 12 médecines et 20 lavements. Je ne m'étonne pas si je ne me porte pas si bien ce mois-ci que l'autre. Je dirai à Monsieur Purgon, afin qu'il mette ordre à cela. Allons, qu'on m'ôte tout ceci. Il n'y a personne, j'ai beau dire, on me laisse toujours seul. Il n'y a pas moyen de les arrêter ici. Ils n'entendent point et ma sonnette ne fait pas assez de bruit. Drilling, 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 point d'affaire. Drilling, drilling, drilling. Ils sont sourds, Toinette. Drilling, drilling, drilling. Tout comme si je ne sonnais point, chienne, coquine. Drilling, drilling, drilling. J'enrage! Drilling, drilling, drilling! Carogne à tous les diables! Est-il possible qu'on laisse comme cela un pauvre malade tout seul? Drilling, drilling, drilling! Voilà qui est pitoyable. Drilling, drilling, drilling. Ah, mon Dieu, ils me laisseront ici mourir. Drilling, drilling, drilling.
On y va.
Ah, chienne. Ah, carogne.
Diantre soit fait de votre impatience. Vous pressez si fort les personnes que je me suis donné un grand coup de la tête contre la carne d'un volet.
Ah, traîtresse.
Ah,
il y a...
Ah,
il y a une heure.
Ah,
tu m'as laissé.
Ah,
tais-toi donc, coquine, que je te querelle.
Samon, ma foi, j'en suis d'avis après ce que je me suis fait.
Tu m'as fait égocier, carogne.
Et vous m'avez fait vous casser la tête. L'un vaut bien l'autre, quitte à quitte, si vous voulez.
Quoi, coquine?
Si vous querellez, je pleurerai.
Me laisser, traîtresse.
Ah,
chienne, tu veux...
Ah,
quoi, il faudra encore que je n'aie pas le plaisir de la quereller.
Quereller tout votre sou, je le veux bien.
Tu m'en empêches, chienne, en m'interrompant à tout coup.
Si vous avez le plaisir de quereller, il faut bien que de mon côté j'ai le plaisir de pleurer. Chincalcien, ce n'est pas trop. Ah !
Allons, il faut passer par là. Ôte-moi ceci, coquine, ôte-moi ceci.
Passons à présent à la scène 5 de l'acte 1. Argan annonce à sa fille qu'elle va se marier. Écoutez cet amusant quiproquo et observez quel rôle Toinette a dans cette scène.
Oh ça, ma fille, je vais vous dire une nouvelle ou peut-être ne vous attendez-vous pas. On vous demande en mariage. Qu'est-ce que cela ? Vous riez ? Oui, cela est plaisant. Oui, ce mot mariage. Il n'y a rien de plus drôle pour les jeunes filles. Ah, nature, nature. À ce que je puis voir, ma fille, je n'ai que vous faire de vous demander si vous voulez bien vous marier.
Je dois faire, mon père, tout ce qui vous plaira de m'ordonner.
Je suis bien aise d'avoir une fille si obéissante. La chose est donc conclue, et je vous ai promise.
C'est à moi, mon père, de suivre aveuglément toutes vos volontés.
Ma femme, votre belle-mère, avait envie que je vous fisse religieuse, et votre petite sœur Louison aussi. Et de tout temps, elle a été aheurtée à cela.
La bonne bête a ses raisons.
Elle ne voulait point consentir à ce mariage, mais je l'ai emporté et ma parole est donnée.
Ah, mon père, que je vous suis obligée de toutes vos bontés. En vérité, je vous ai bon gré de cela. Et voilà l'action la plus sage que vous ayez faite de votre vie.
Je n'ai point encore vu la personne, mais on m'a dit que j'en serais content. Et toi aussi.
Assurément, mon père.
Comment l'as-tu vu ?
Puisque votre consentement m'autorise à vous ouvrir mon cœur, je ne feindrai point de vous dire que le hasard nous a fait connaître il y a 6 jours et que la demande qu'on vous a faite est un effet de l'inclination que dès cette première vue, nous avons prise l'un pour l'autre.
Ils ne m'ont pas dit cela, mais j'en suis bien aise. Et c'est tant mieux que les choses soient de la sorte. Ils disent que c'est un grand jeune homme bien fait.
Oui, mon père.
De belle taille.
Sans doute.
Agréable de sa personne.
Assurément.
De bonne physionomie.
Très bonne.
Sage et bien né.
Tout à fait.
Fort honnête.
Le plus honnête du monde.
Qui parle bien latin et grec.
C'est ce que je ne sais pas.
Et qui sera reçu médecin dans 3 jours.
Lui, mon père ?
Oui. Est-ce qu'il ne te l'a pas dit ?
Non, vraiment. Qui vous l'a dit à vous ?
Monsieur Purgon.
Est-ce que Monsieur Purgon le connaît ?
La belle demande. Il faut bien qu'il le connaisse puisque c'est son neveu.
Cléante, neveu de Monsieur Purgon ?
Quelle Cléante ? Nous parlons de celui pour qui l'on t'a demandé en mariage.
Eh oui.
Eh bien, c'est le neveu de Monsieur Purgon, qui est le fils de son beau-frère, le médecin, Monsieur Diafoirus. Et ce fils s'appelle Thomas Diafoirus, et non pas Cléante. Et nous avons conclu ce mariage-là ce matin. Monsieur Purgon, Monsieur Fleurant et moi. Et demain, ce gendre prétendu doit m'être amené par son père. Qu'est-ce voilà, tout est bobby.
C'est mon père que je connais que vous avez parlé d'une personne et que j'en ai entendu une autre.
Quoi ? Monsieur, vous auriez fait ce dessin burlesque ? Et avec tout le bien que vous avez, vous voudriez marier votre fille avec un médecin ?
Oui, de quoi te mêles-tu, coquine impudente que tu es ?
Mon Dieu, tout doux, vous allez d'abord aux invectives. Est-ce que nous ne pouvons pas raisonner ensemble sans nous emporter ? Là, parlons de sang-froid. Quelle est votre raison, s'il vous plaît, pour un tel mariage ?
Ma raison est que, me voyant infirme et malade comme je suis, je veux me faire un gendre et des alliés médecins, afin de m'appuyer sur de bons secours contre ma maladie, d'avoir dans ma famille les sources des remèdes qui me sont nécessaires, et d'être à même des consultations et des ordonnances.
Eh bien, voilà dire une raison, et il y a plaisir à se répondre doucement les uns aux autres. Mais monsieur, mettez la main à la conscience, est-ce que vous êtes malade ?
Comment, coquine, si je suis malade ? Si je suis malade, impudente ?
Eh bien, oui monsieur, vous êtes malade, n'ayons point de querelle là-dessus. Oui, vous êtes fort malade, j'en demeure d'accord. Et plus malade que vous ne pensez, voilà qui est fait. Mais votre fille doit épouser un mari pour elle, et n'étant point malade, il n'est pas nécessaire de lui donner un médecin.
C'est pour moi que je lui donne ce médecin. Une fille de bon naturel doit être ravie d'épouser ce qui est utile à la santé de son père.
Monsieur, tout cela est bel et bon, mais j'en reviens toujours là. Je vous conseille, entre nous, de lui choisir un autre mari, et elle n'est point faite pour être Madame Diafoirus.
Je veux moi que cela soit.
Et fille, ne dites pas cela.
Comment que je ne dise pas cela ?
Et non.
Et pourquoi ne le dirais-je pas ?
On dira que vous ne songez pas à ce que vous dites.
On dira ce qu'on voudra, mais je vous dis que je veux qu'elle exécute la parole que j'ai donnée.
Non, je suis sûre qu'elle ne le fera pas.
Je l'y forcerai bien.
Elle ne le fera pas, vous dis-je.
Elle le fera ou je la mettrai dans un couvent.
Vous ?
Moi.
Bon.
Comment bon ?
Vous ne la mettrez point dans un couvent.
Je ne la mettrai point dans un couvent ?
Non.
Non ?
Non.
Oui, voici ce qui est plaisant. Je ne mettrai pas ma fille dans un couvent si je veux.
Non, vous dis-je.
Qui m'en empêchera ?
Vous-même.
Moi ?
Oui, vous n'aurez pas ce cœur-là.
Je l'aurai.
Vous vous moquez.
Je ne me moque point.
La tendresse paternelle vous prendra.
Elle ne me prendra point.
Une petite larme ou deux, des bras jetés au cou, un « mon petit papa mignon » prononcé tendrement sera assez pour vous toucher.
Tout cela ne fera rien.
Oui, oui.
Je vous dis que je n'en démordrai point.
Bagatelle.
Il ne faut point dire bagatelle.
Mon Dieu, je vous connais. Vous êtes bon naturellement.
Je ne suis point bon et je suis méchant quand je veux.
Doucement, monsieur. Vous ne songez pas que vous êtes malade ?
Je lui commande absolument de se préparer à prendre le mari que je dis.
Et moi, je lui défends absolument d'en faire rien.
Où est-ce donc que nous sommes et quelle audace est-ce là une coquine de servante de parler de la sorte devant son maître ?
Quand un maître ne songe pas à ce qu'il fait, une servante bien sensée est en droit de le redresser.
Votre attention, s'il vous plaît. Nous arrivons à une scène clé de la pièce. Toinette, déguisée en médecin, propose à son maître une drôle de consultation. Va-t-il s'apercevoir de la supercherie ?
Monsieur, je vous demande pardon de tout mon cœur.
Cela est admirable.
Vous ne trouverez pas mauvaise, s'il vous plaît, la curiosité que j'ai eue de voir un illustre malade comme vous êtes. Et votre réputation qui s'étend partout peut excuser la liberté que j'ai prise.
Monsieur, je suis votre serviteur.
Je vois, monsieur, que vous me regardez fixement. Quel âge croyez-vous bien que j'ai ?
Je crois que tout ou plus vous pouvez avoir 26... Oh non, 27 ans.
Ah ah, j'en ai 90.
90 ?
Oui, vous voyez un effet des secrets de mon art, de me conserver ainsi frais et vigoureux.
Par ma foi, voilà un beau jeune vieillard pour 90 ans.
Je suis médecin passager qui vais de ville en ville, de province en province, de royaume en royaume. Je veux des maladies d'importance, de bonnes fièvres continues, de bonnes pestes, de bonnes pleurésies, avec des inflammations de poitrine. C'est là que je me plais, c'est là que je triomphe. Et je voudrais, monsieur, que vous ossiez toutes les maladies que je viens de dire.
Je vous suis obligé, monsieur, des bons têtes que vous avez pour moi.
Donnez-moi votre pouls. Allons donc, que l'on batte comme il faut. Aïe, je vous ferai bien aller comme vous devez. Oï, ce pouls-là fait l'impertinent. Je vois bien que vous ne me connaissez pas encore. Qui est votre médecin ?
Monsieur Purgon.
Cet homme-là n'est point écrit sur mes tablettes entre les grands médecins. De quoi dit-il que vous êtes malade ?
Il dit que c'est du foie haut et d'autres disent que c'est de la rate.
Ce sont tous des ignorants. C'est du poumon que vous êtes malade.
Du poumon ?
Oui. Que sentez-vous ?
Je sens de temps en temps des douleurs de tête.
Justement, le poumon.
Il me semble parfois que j'ai un voile devant les yeux.
Le poumon.
J'ai quelquefois des maux de cœur.
Le poumon.
Je sens parfois des lassitudes par tous les membres.
Le poumon.
Et quelquefois, il me prend des douleurs dans le ventre, comme si c'était des coliques.
Le poumon. Vous avez appétit à ce que vous mangez ?
Oui, monsieur.
Le poumon. Vous aimez à boire un peu de vin ?
Oui, monsieur.
Le poumon. Il vous prend un petit sommeil après le repas, et vous êtes bien aise de dormir ?
Oui, monsieur.
Le poumon, vous dis-je. Que vous ordonne votre médecin pour votre nourriture ?
Il m'ordonne du potage.
Ignorant.
De la volaille.
Ignorant.
Du veau.
Ignorant.
Du bouillon.
Ignorant.
Des œufs frais.
Ignorant.
Et le soir, de petits pruneaux pour lâcher le ventre.
Ignorant.
Et surtout, de boire mon vin fort trempé.
Ignorant tous, ignoranta, ignorantum. Il faut boire votre vin pur, et pour épaissir votre sang qui est trop subtil. Il faut manger de bons gros bœufs, de bons gros porcs, de bons fromages d'Hollande, du gruau et du riz. Et des marrons et des oublis, pour coller et conglutiner. Votre médecin est une bête. Je vais vous en envoyer un de ma main. Et je viendrai vous voir de temps en temps, tandis que je serai en cette ville.
Vous m'obligez beaucoup.
Que diante faites-vous de ce bras-là ?
Comment ?
Voilà un bras que je me fais couper tout à l'heure, si j'étais que de vous.
Et pourquoi ?
Ne voyez-vous pas qu'il tire à soi toute la nourriture et qu'il empêche ce côté-là de profiter ?
Oui, mais j'ai besoin de mon bras.
Vous avez là aussi un œil droit que je me fais crever, si j'étais en votre place.
Crever un œil ?
Ne voyez-vous pas qu'il incommode l'autre et lui dérobe sa nourriture ? Croyez-moi, faites-vous le crever au plus tôt, vous en verrez plus clair de l'œil gauche.
Cela n'est pas pressé.
Adieu, je suis fâché de vous quitter si tôt, mais il faut que je me trouve à une grande consultation qui se doit faire pour un homme qui mourut hier.
Pour un homme qui mourut hier ?
Oui, pour réviser et voir ce qu'il aurait fallu lui faire pour le guérir. Jusqu'au revoir.
Vous savez que les malades ne reconduisent point.
Voilà un médecin vraiment qui paraît fort habile.
Oui, mais il va un peu bien vite.
Tous les grands médecins sont comme cela.
Me couper un bras et me crever un œil afin que l'autre se porte mieux ? J'aime bien mieux qu'il ne se porte pas si bien. La belle opération de mort borgne et manchot.
Je reprends le micro pour vous indiquer que nous allons maintenant entendre un autre moment de la scène d'exposition. Argan vient de passer un long moment à payer les factures de ses médicaments.
3 et 2 font 5 et 5 font 10 et 10 font 20. 63 livres, 4 sols, 6 deniers. Si bien donc que ce mois-ci j'ai pris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 médecines. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 lavements. Et l'autre mois il y avait 12 médecines et 20 lavements. Je ne m'étonne pas si je ne me porte pas si bien ce mois-ci que l'autre. Je dirai à M. Purgon, afin qu'il mette ordre à cela. Allons, qu'on m'ôte tout ceci. Il n'y a personne, j'ai beau dire, on me laisse toujours seule. Il n'y a pas moyen de les arrêter ici. Ils n'entendent point et ma sonnette ne fait pas assez de bruit. Drilling, 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 point d'affaire. Drilling, drilling, drilling. Ils sont sourds, Toinette. Drilling, drilling, drilling. Tout comme si je ne sonnais point, chienne, coquine. Drilling, drilling, drilling. J'enrage. Drilling, drilling, drilling. Carogne à tous les diables. Est-il possible qu'on laisse comme cela un pauvre malade tout seul? Drilling, drilling, drilling. Voilà qui est pitoyable. Drilling, drilling, drilling. Ah, mon Dieu, ils me laisseront ici mourir. Drilling, drilling, drilling.
On y va.
Ah, chienne. Ah, carogne.
Diantre soit fait de votre impatience. Vous pressez si fort les personnes que je me suis donné un grand coup de la tête contre la carne d'un volet.
Ah, traîtresse.
Ah,
il y a.
Ah,
il y a une heure.
Ah,
tu m'as laissé.
Ah,
tais-toi donc, coquine, que je te querelle.
Samon, ma foi, j'en suis d'avis après ce que je me suis fait.
Tu m'as fait égocier, carogne.
Et vous m'avez fait vous casser la tête. L'un vaut bien l'autre, quitte à quitte, si vous voulez.
Quoi, coquine?
Si vous querellez, je pleurerai.
Me laisser, traîtresse.
Ah,
chienne, tu veux.
Ah,
quoi, il faudra encore que je n'aie pas le plaisir de la quereller.
Quereller tout votre sou, je le veux bien.
Tu m'en empêches, chienne, en m'interrompant à tout coup.
Si vous avez le plaisir de quereller, il faut bien que de mon côté j'ai le plaisir de pleurer. Chincalcien, ce n'est pas trop. Ah!
Allons, il faut passer par là. Ôte-moi ceci, coquine, ôte-moi ceci.
Chers auditeurs, nous allons découvrir le personnage de Thomas Diafoirus. Argan a prévu de marier ce jeune médecin à sa fille Angélique.
Monsieur Purgon, monsieur m'a défendu de découvrir ma tête. Vous êtes du métier, vous savez les conséquences.
Nous sommes dans toutes nos visites pour porter secours aux malades, et non pour leur porter de l'incommodité.
Je reçois, monsieur.
Nous venons ici, monsieur.
Fils Thomas et moi, l'honneur que vous
témoignez, monsieur, le ravissement où nous sommes, de la grâce que vous nous faites, de vouloir bien nous recevoir, dans l'honneur, monsieur, de votre alliance,
et qui ne veut faire autre chose que de vous dire ici, qui chercherait toutes les occasions de vous faire connaître,
monsieur,
qui a tout témoigné votre zèle.
Allons, Thomas, avancez, faites votre compliment.
N'est-ce pas par le père qu'il convient commencer?
Oui.
Monsieur, je viens saluer, reconnaître, chérir et révérer en vous un second père. Mais un second père auquel j'ose dire que je me retrouve plus redevable qu'au premier. Le premier m'a engendré, mais vous m'avez choisi. Il m'a reçu par nécessité, mais vous m'avez accepté par grâce. Ce que je tiens de lui est un ouvrage de son corps, mais ce que je tiens de vous est un ouvrage de votre volonté. Et d'autant plus que les facultés spirituelles sont au-dessus des corporelles, et d'autant plus que je tiens précieuse cette future filiation dont je viens aujourd'hui vous rendre par avance les très humbles et très respectueux hommages.
Vive les collèges d'où l'on sort si habile homme!
Cela a-t-il bien été, mon père?
Optimé.
Allons, salut monsieur.
Baiserai-je?
Oui, oui.
Madame, c'est avec justice que le ciel vous a concédé le nom de belle-mère, puisque l'on...
C'est pas ma femme, c'est ma fille à qui vous parlez.
Où donc est-elle?
Elle va venir.
Attendrai-je, mon père, qu'elle soit venue?
Faites toujours le compliment de mademoiselle.
Mademoiselle, ne plus, ne moins que la statue de même nom rendrait un son harmonieux lorsqu'elle venait être éclairée des rayons du soleil, tout de même me sens-je animé d'un doux transport à l'apparition du soleil de vos beautés. Et comme les naturalistes remarquent la fleur nommée héliotrope tourne sans cesse vers cet astre du jour, aussi mon cœur d'ores en avant tournera-t-il toujours vers les astres resplendissants de vos yeux adorables, ainsi que vers son pôle unique. Souffrez donc, mademoiselle, que j'appende aujourd'hui à l'autel de vos charmes l'offrande de ce cœur qui ne respire et n'ambitionne autre gloire que d'être toute sa vie, mademoiselle, votre très humble, très obéissant et très fidèle serviteur et mari.
Voilà ce que c'est que d'étudier. On apprend à dire de belles choses.
Et que dites-vous de cela?
Que monsieur fait merveille, et que s'il est aussi bon médecin qu'il est bon orateur, il aura plaisir à aider ses malades.
Assurément, ce sera quelque chose d'admirable s'il fait d'aussi belles cures qu'il fait de beaux discours.
Allons vite, ma chaise, et des sièges à tout le monde.
Nous sommes à la scène 12 de l'acte 3. Sur les conseils de Toinette, Argan fait semblant d'être mort, et découvre les véritables sentiments de sa femme Béline.
Ah, mon Dieu! Ah, malheur! Quel étrange accident!
Qu'est-ce, Toinette?
Ah, madame!
Qu'y a-t-il?
Votre mari est mort.
Mon mari est mort?
Hélas, oui. Le pauvre défunt est trépassé.
Assurément?
Assurément. Personne ne sait encore cet accident-là. Et je me suis trouvée ici, toute seule. Et je viens de passer entre mes bras. Tenez, le voilà, de tout sous l'ombre dans cette chaise.
Le ciel en soit loué! Me voilà délivrée d'un grand fardeau. Que tu es sotte, Toinette, de t'affliger de cette mort.
Je pensais, madame, qu'il fallut pleurer.
Va, va, cela n'en vaut pas la peine. Quelle perte est-ce que la sienne ? Et de quoi servait-il sur la terre ? Un homme incommode à tout le monde, malpropre, dégoûtant, sans cesse un lavement ou une médecine dans le ventre, mouchant, toussant, crachant toujours, sans esprit, ennuyeux, de mauvaise humeur, fatiguant sans cesse les gens et grondant jour et nuit, servante et valet.
Voilà une belle oraison funèbre.
Il faut, honnête, que tu m'aides à exécuter mon dessein. Et tu peux croire qu'en me servant, ta récompense est sûre, puisque par un bonheur, personne n'est encore averti de la chose. Portons-le dans son lit et tenons cette mort cachée, jusqu'à que j'ai fait mon affaire. Il y a des papiers, il y a de l'argent dont je veux me saisir. Il n'est pas juste que j'ai passé sans fruit auprès de lui mes plus belles années. Viens, Toinette, prenons par avant toutes ces clés.
Doucement.
Aïe !
Oui, madame ma femme, c'est ainsi que vous m'aimez ?
Ah ah, le défunt n'est pas mort.
Je suis bien aise de voir votre amitié, d'avoir entendu le beau panégyrique que vous avez fait de moi. Voilà un avis au lecteur qui me rendra sage à l'avenir et qui m'empêchera de faire bien des choses.
Eh bien, mon frère, vous le voyez ?
Par ma foi, je n'aurais jamais cru cela. Mais j'entends votre fille. Remettez-vous comme vous étiez et voyons de quelle manière elle recevra votre mort. C'est une chose qui n'est pas mauvaise d'éprouver. Et puisque vous êtes en train, vous connaîtrez par là les sentiments que votre famille a pour vous.
Quelle désillusion pour le pauvre Argan. Dans la scène suivante, il va refaire le mort pour voir la réaction de sa fille. Réagira-t-elle comme sa belle-mère ?
Oh ciel ! Ah, quelle fâcheuse aventure ! Malheureuse journée !
Qu'as-tu, Toinette ? Et de quoi pleures-tu ?
Hélas, j'ai de tristes nouvelles à vous donner.
Et quoi ?
Votre père est mort.
Mon père est mort, Toinette ?
Oui, vous le voyez là. Il vient de mourir tout à l'heure d'une faiblesse qui lui a pris.
Oh ciel, quelle infortune, quelle attente cruelle. Hélas, faut-il que je perde mon père, la seule chose qui me restait au monde, et qu'encore, pour un surcroît de désespoir, je le perds dans un moment où il était irrité contre moi. Que deviendrai-je malheureuse ? Et quelle consolation trouver après une si grande perte ?
Qu'avez-vous donc, belle Angélique, et quel malheur pleurez-vous ?
Hélas, je pleure tout ce que dans ma vie je pouvais perdre de plus cher, de plus précieux. Je pleure la mort de mon père.
Oh ciel, quel accident, quel coup inopiné ! Hélas, après la demande que j'avais conjuré votre oncle de lui faire pour moi, je venais me présenter à lui et tâcher par mes respects et par mes prières de disposer son cœur à vous accorder mes vœux.
Ah, Cléante, ne parlons plus de rien. Laissons là toutes les pensées du mariage. Après la perte de mon père, je ne veux plus être du monde et j'y renonce pour jamais.
Ah, ma fille.
Aïe !
Viens, n'aie point peur, je ne suis pas mort. Va, tu es mon vrai sang, ma véritable fille. Je suis ravie d'avoir vu ton bon naturel.
Ah, quelle surprise agréable, mon père. Puisque par un bonheur extrême, le ciel vous redonne à mes vœux, souffrez qu'ici, je me jette à vos pieds pour vous supplier d'une chose. Si vous n'êtes pas favorable au penchant de mon cœur, si vous me refusez Cléante pour époux, je vous conjure au moins de ne point forcer d'en épouser un autre. C'est toute la grâce que je vous demande.
Et monsieur, laissez-vous toucher à ces prières et aux miennes, et ne vous montrez point contraire au mutuel empressement d'une si belle inclination.
Mon frère, pouvez-vous tenir la contre ?
Monsieur, serez-vous insensible à tant d'amour ?
Qu'il se fasse médecin, je consens au mariage. Oui, faites-vous médecin, je vous donne ma fille.
Nous passons à la dernière lecture des quatrièmes. Écoutez la fin de la pièce que l'on appelle le dénouement.
Mais mon frère, il me vient une pensée. Faites-vous médecin vous-même. La commodité sera encore plus grande d'avoir en vous tout ce qu'il vous faut.
Cela est vrai. Voilà le vrai moyen de vous guérir bientôt. Il n'y a point de maladie si osée que de se jouer à la personne d'un médecin.
Je pense, mon frère, que vous vous moquez de moi. Est-ce que je suis en âge d'étudier ? Bon, étudiez. Vous êtes assez savant. Il y en a beaucoup parmi eux qui ne sont pas plus habiles que vous.
Bon, allons, voyons cela.
Chers auditeurs, chères auditrices, nous arrivons à la dernière partie de l'émission. Vous allez entendre les commentaires de trois classes de troisième sur le spectacle de la compagnie Vol Plané. Les trois groupes vont tour à tour vous livrer leurs avis sur le malade imaginaire.
Bonjour, chers auditeurs. Aujourd'hui, nous discutons de la nouvelle mise en scène du malade imaginaire jouée par la compagnie Vol Plané à la salle des fêtes de Mauzé-sur-le-Mignon le vendredi 7 février. Représentation organisée par la scène nationale de Niort, le Moulin du Roc. Pour décrypter la pièce, nous recevons plusieurs invités. Zoé, Achille et Charlie, de la classe de 3e Renard du collège René Caillé de Mauzé-sur-le-Mignon. Quel est votre avis global sur la pièce ?
Au début, j'appréhendais un peu. Je m'attendais à voir un spectacle long et ennuyeux. Finalement, je trouve que la pièce est bien modernisée pour un texte de 1673. Ce qui est bien avec cette comédie, c'est qu'elle est accessible. Enfin, le spectacle est interactif, ce qui le rend particulièrement amusant.
Globalement, j'ai apprécié la pièce. J'ai souvent été surpris. Le temps est passé vite, je ne me suis pas ennuyé. J'ai ressenti diverses émotions comme la tristesse ou le bonheur. Je me suis identifié au personnage, en particulier à Angélique. En résumé, j'ai passé un bon moment.
Moi, je trouve que c'est vraiment une pièce à voir une fois dans sa vie. C'est rythmé, les comédiens ne se ménagent pas, on sent qu'ils ont fait un gros travail pour arriver à ce résultat.
Comment décririez-vous l'ambiance et le ton de la mise en scène ?
L'objectif était clairement de nous faire rire et de nous faire réfléchir.
La pièce est une comédie, mais elle aborde un sujet sérieux, la médecine.
Le spectacle comporte une part d'improvisation, très étonnant de voir la réactivité des comédiens.
Quel acteur ou actrice vous a particulièrement marqué ? Pour quelle raison ?
L'actrice qui m'a particulièrement marqué, c'est celle qui jouait le personnage de Béline, Angélique et Monsieur Diafoirus. Elle avait plusieurs rôles à jouer et arrivait à incarner plusieurs personnages.
Moi, celui qui m'a marqué, c'était Argan. C'était le premier rôle et il avait beaucoup de textes à apprendre. J'ai été très impressionné par sa performance sur son fauteuil.
La pièce reste-t-elle fidèle au texte original ? Pose-t-elle une réinterprétation ?
La pièce propose une réinterprétation parce que des passages ont été coupés ou rajoutés. Certains passages ont été ajoutés pour éclairer la langue de Molière, puisque certains mots sont datés. Ces ajouts permettent de mieux comprendre.
La pièce a duré 1h40 au lieu de 4 heures, soit deux fois moins de temps que la version originale. Certains passages ont été coupés. Par exemple, un long passage sur la médecine de l'époque a été raccourci. Mais, les auditeurs peuvent se rassurer, l'essentiel est tout de même gardé.
Quel moment vous a particulièrement marqué et pourquoi ?
La bataille de coussins, c'était un passage particulièrement drôle.
Ce spectacle réserve des surprises aux spectateurs, mais je ne veux pas trop en dire, il ne faudrait pas spoiler.
En parlant du public, comment a-t-il réagi pendant et après la représentation ?
J'ai rigolé particulièrement lors de la scène du poumon où Toinette se déguise en médecin. J'ai été étonnée de voir autant de personnages incarnés par seulement 4 comédiens. À la fin de la représentation, j'ai applaudi et je n'étais pas la seule.
Moi, j'ai été perdu au moment où tous les comédiens parlaient en même temps. Je n'arrivais pas à suivre et j'ai eu peur que toute la pièce ressemble à ça. Heureusement, la suite était différente. Dans la salle, il y avait essentiellement des collégiens. Ils sont restés assez silencieux et respectueux. Certains professeurs ont réagi particulièrement fort. Ils ont visiblement passé un bon moment. Il y a une chanson qui les a beaucoup fait rire.
Pensez-vous que cette version pourrait parler à des spectateurs novices ?
Je pense que oui. Moi, par exemple, je n'avais jamais assisté à une pièce de théâtre. Cela ne m'a pas empêché de suivre et de comprendre le spectacle. D'autant plus que les acteurs faisaient parfois des pauses pour expliquer la situation ou le vocabulaire.
Y a-t-il d'après vous des points qui pourraient être améliorés pour rendre la pièce encore plus percutante ?
J'admets que j'ai été surprise et gênée que les comédiens s'approchent de nous.
J'étais un peu déçue de ne pas voir les comédiens en costume d'époque. Cela aurait donné plus de réalisme.
J'aurais bien voulu qu'il y ait encore plus d'interactions avec le public. Moi aussi, j'aurais voulu monter sur scène. Je suis un peu jaloux de mes camarades qui ont eu cette chance.
Et nous n'en dirons pas plus pour laisser la surprise aux futurs spectateurs. Pour finir, recommanderiez-vous cette pièce à quel type de spectateur ?
Oui, nous recommandons ce spectacle, mais pas aux enfants. L'intrigue est trop complexe pour eux.
Attention aussi aux âmes sensibles. Tout peut arriver dans ce spectacle.
Merci beaucoup pour cette analyse éclairante. Pour ceux qui souhaitent se faire leur propre avis, la tournée du Malade Imaginaire mise en scène par la compagnie Vol Plané se poursuit partout en France.
L'histoire du Malade Imaginaire a été créée il y a longtemps, au XVIIe siècle, mais elle reste connue au fil des âges. Elle est amusante, elle parle d'une réalité de l'époque. La médecine est plus basée sur les croyances que sur la science. Dans l'ensemble, on comprend l'histoire, mais le fait que les comédiens ne soient que 4 pour 12 personnages, on ne pouvait pas mettre un visage sur un rôle. Le vocabulaire relevait parfois du domaine de la médecine, par exemple un clistère. On ne comprenait pas tout, c'était des mots utilisés à l'époque, plus maintenant. Malgré tout, Le Malade Imaginaire reste une pièce intéressante et captivante.
J'ai trouvé que la pièce était drôle. J'ai souvent ri car les acteurs étaient bien dans leur personnage. Il y avait des scènes particulièrement drôles. La bataille de coussins, par exemple. C'était avec des adultes et même des personnes un peu âgées en fauteuil roulant. Les coussins atterrissaient sur les spectateurs. C'était vraiment ridicule et inattendu. Argan se comportait comme un enfant alors qu'il était âgé de 50 ans, je dirais. Il y a aussi le moment où Toinette est déguisée en médecin avec un collant sur la tête. Ça la rendait ridicule, car son visage était compressé et déformé.
Nous avons trouvé que la pièce était moderne. Tout d'abord, les acteurs jouaient plusieurs rôles, et pour les différencier, les acteurs utilisaient des t-shirts avec le nom des personnages. Le public a lui aussi participé pour remplacer des personnages. Enfin, certaines actions étaient accompagnées de musique. Ces musiques permettaient aux spectateurs de vivre les actions. Elles étaient toutes bien choisies. Elle faisait comprendre certains passages. Par exemple, la chanson « J'ai encore rêvé d'elle » permettait de comprendre que les deux personnages étaient amoureux. La modernité est un point positif. La pièce datant du XVIIe siècle, il a fallu la mettre au goût du jour.
Nous avons trouvé la manière de jouer le Malade Imaginaire amusante. Ce que nous avons surtout apprécié, ce sont les interactions avec le public. C'est une pièce de théâtre qui pourrait vite devenir lassante pour beaucoup. Alors cette manière de nous intégrer est plutôt drôle et captivante. Le fait de mettre des objets modernes dans cette pièce qui se fait maintenant vieille est plutôt drôle. Cela permet à notre génération de s'y retrouver un peu. En revanche, nous sommes restés parfois un peu perdus. Ils criaient tout le temps, couraient partout. Si cela était plus calme, je pense que cela aurait été plus facile à suivre. D'autant qu'ils n'étaient que quatre sur scène, alors que pour changer de rôle, il fallait qu'ils changent de t-shirt. Ce qui parfois pouvait aussi un peu nous perdre. Malgré cela, nous en gardons un bon souvenir. Nous avons bien ri, cette reprise est nettement plus drôle. Elle nous a permis de comprendre certaines choses que nous n'avons pas comprises dans la pièce originale. La pièce est tellement vivante, nous conseillons d'aller voir cette mise en scène.
Le malade imaginaire était une pièce sympathique à regarder, mais compliquée parfois à comprendre. J'ai eu du mal au début car les comédiens ont commencé la pièce d'un seul coup, sans explication, en parlant tous en même temps. Ce qui était complexe aussi était qu'il y avait 4 comédiens pour 12 rôles. Cela était un peu perturbant, il a fallu un temps d'adaptation pour rentrer dans la pièce. Malgré tout, cela reste une pièce agréable.
Je vais vous parler de ce que j'ai pensé du décor. La scène était au milieu de la salle, à même le sol. Elle était rectangulaire, et le public était sur 3 des côtés, donc tout près des acteurs. Derrière la scène, il y avait une sorte de DJ qui faisait des bruitages et mettait de la musique à certains moments. Il n'y avait pas beaucoup de lumière, aucun décor précis, seulement des chaises et des fauteuils sur la scène. Entre la scène et les coulisses, il y avait un écran, avec le début des chapitres. J'ai trouvé le décor à la fois moderne et minimaliste.
Quand nous y sommes allés, nous pensions que ça allait être ennuyeux, mais finalement, des choses nous ont surpris. Premièrement, la bataille de coussins située dans l'acte 1, qui était inattendue. Ensuite, les bruits de paix qui ont suivi Argan dans l'acte 1 et 2. Après, la chanson qui est chantée dans la pièce par Cléante et Angélique. Enfin, quand les comédiens faisaient monter des élèves qui se situaient au premier rang pour leur faire jouer un rôle quelques minutes. Pour toutes ces raisons, alors que beaucoup d'entre nous n'étaient pas enjoués à l'idée d'y aller, ce fut une bonne surprise.
Au début de l'acte 3 se déroule une longue scène sur la médecine où Argan et Bérald débattent sur l'efficacité de la médecine et de la prise de médicaments. Cette scène dure en fait 14 pages, ce qui risque d'ennuyer le public. La comédienne jouant Antoinette entre donc sur scène pour couper cette partie de la pièce. Suite à ça, le comédien jouant Argan insiste sur que le passage nécessaire au spectacle, ce qui génère une vraie dispute entre les deux comédiens. En tant que spectateur, on a été un peu surpris et nous demandons surtout si cette scène était prévue ou non.
Dans l'acte 3, Argan fait croire à sa femme Béline qu'il est décédé. On peut remarquer que lorsque Béline a vu Argan au sol, au lieu d'être triste, elle était contente qu'il soit mort. Ensuite, Argan a décidé de faire croire à sa fille Angélique qu'il était mort. Lorsqu'Angélique a vu Argan au sol, elle s'est directement effondrée auprès de lui. Argan a fait ça pour voir finalement qui tenait vraiment à lui. C'est vraiment une scène que j'ai retenue, car je ne m'attendais pas à cette réaction de la part de Béline. Je trouve la réaction d'Angélique touchante, car elle en voulait quand même à son père, mais elle a mis son ego de côté lorsqu'elle a vu qu'il était mort. Ça prouve son amour pour son père.
Je n'ai pas aimé la scène d'exposition, car tous les comédiens parlaient en même temps. On n'arrive pas à comprendre l'histoire, car le texte d'Argan était sans cesse coupé par 2 autres comédiens qui donnaient la définition d'un mot. J'ai trouvé ce passage stressant, mais je l'ai aussi trouvé captivant, car tous les spectateurs se sont tus. Et j'étais aussi complètement plongé dedans et attentif.
Très chers auditeurs, nous arrivons au terme de cette émission radiophonique. C'était un plaisir de vous accompagner tout au long de cette aventure. Nous remercions le Moulin du Roc, scène nationale de New York qui a l'initiative du projet. Pigouille Radio pour l'accompagnement technique. Et la compagnie Vol Plané qui a fait le voyage jusqu'à Mauzé-sur-le-Mignon pour nous faire découvrir le malade imaginaire. Nous espérons que nous vous avons donné envie, à votre tour, de découvrir cette pièce.
Merci pour votre attention.